Santé.
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 C'est bon pour la 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 santé.
Eh oui, c'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Marianne Paquette avec vous, avec grand plaisir pour les 60 prochaines minutes. Aujourd'hui, à l'émission, des années de bilinguisme transforment le cerveau en le rendant plus efficace, plus économe de ses ressources. Docteur Anna Inès Ansaldo, désolée, mon italien n'est pas tout à fait au point. Elle est chercheuse au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. C'est elle qui est arrivée avec son équipe à cette conclusion et on lui parlera davantage en deuxième partie d'émission. Aussi, faire découvrir aux jeunes ayant des limitations fonctionnelles des activités sportives adaptées, c'est la mission que s'est donnée le petit Viomax. On connaît bien ici au Canalem Viomax, hein, qui est un centre sportif adapté pour des personnes en situation de handicap, mais il y a aussi un petit Viomax destiné aux plus jeunes. Et j'en parle avec Daphné Dagenet-Paquette, elle est coordonnatrice du secteur jeunesse de ce côté-là. Aussi, Alexandre Chagnon, lui, pharmacien, nous présente une plateforme web qui s'appelle Questions pour un pharmacien. Il est idéateur de ce projet-là qui encourage les internautes québécois à poser des questions concernant, bien sûr, les médicaments, mais aussi les produits de santé naturelle et tous les bobos quotidiens. Au quotidien, ça permet peut-être un rapprochement entre le grand public et les pharmaciens du Québec. Et finalement, Tommy Kulchik nous parle de son nouveau rôle de commissaire à l'enfance de Montréal. Il nous expliquera aussi en quoi consiste la politique de l'enfant de la ville de Montréal et tous ses impacts bénéfiques sur la santé globale des familles. Tout ça, mais avant la revue de presse de Martin Forgue. Il est recherchiste de cette émission. Je vous le présente à l'instant, Martin Forgue. Bonjour.
Bonjour, Marianne.
On est content de vous avoir parmi nous parce
merci.
Que hier, vous avez fait gonfler le pourcentage des urgences, comme bien d'autres Québécois. Hein?
Oui, merci au trottoir glacé de la ville et ainsi qu'à la personne qui m'a entraîné dans sa chute. Mais bon, bref, plus de peur que de mal de ce côté.
On parle aujourd'hui de la santé des Autochtones. Mm-hmm. Du côté d'Ottawa, on critiquerait en fait les mesures de ce côté-là.
C'est ce qu'affirme la directrice générale de la santé de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, Mme Cindy Blackstock, qui affirme que le gouvernement fédéral n'a pas donné suite adéquatement à une décision qui a été rendue l'an dernier par le Tribunal canadien des droits de la personne et qui sommet finalement le gouvernement fédéral d'agir immédiatement pour assurer la santé et le bien-être des enfants autochtones. Elle est jointe dans sa complainte, notamment par le député néo-démocrate de Timmins Bay James, Charlie Angus, une région qui possède quand même un fort pourcentage de population autochtone, qui dit que les enfants n'ont pas accès à tous les soins dont ils devraient bénéficier, qui se heurtent souvent à des difficultés pour avoir accès à tous les services auxquels ils auraient droit. Et il y a l'Assemblée des Premières Nations et la Société de soutien à l'enfance qui disent, on a à se battre continuellement pour que nos jeunes aient accès aux soins appropriés. Évidemment, le gouvernement libéral s'en défend, affirme qu'il a donné suite à la décision, qu'il a cité en exemple un investissement de 382 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir ce qu'on appelle le principe de Jordan, qui a été adopté à la Chambre des communes en 2007 et qui est une politique pour assurer que les enfants autochtones aient accès aux mêmes services que tous les enfants canadiens. Mais bon, évidemment, encore une fois, on est devant une guerre de clochers.
Oui, c'est bref, ça. Mais pourtant, quand on regarde les statistiques, on se rend compte assez aisément que les jeunes autochtones n'ont pas le même niveau de vie, de santé que les autres enfants ici au Québec.
C'est assez évident. Et c'est à voir aussi évidemment, est-ce que l'argent qui est versé par le gouvernement est suffisant et attribué aux bons endroits? Ça aussi, c'est à voir.
On a de la suite dans les idées parce qu'on poursuit en ce qui a trait à la santé des Autochtones avec une femme, Carrie Bourassa, qui a été nommée titulaire d'une chaire de recherche.
Oui, elle est la nouvelle directrice scientifique de l'Institut de la santé des Autochtones. Et ça, c'est membre des instituts de recherche en santé du Canada, qui est un réseau un peu virtuel, finalement, de plusieurs instituts au travers du pays. Et bon, dans l'article qui nous provient de Radio-Canada International, quand même assez ironique qu'on ait besoin d'aller sur RCI pour avoir des nouvelles sur les Premières Nations, ben on a demandé à M. Baudet, qui est le président des instituts de recherche en santé, mais est-ce qu'une femme autochtone est mieux placée que les autres pour justement diriger la recherche en ce sens? Eh bien, il, lui, de son côté, dit que pas forcément, mais dans le cas de Mme Bourassa, on est en présence d'une femme extrêmement compétente, donc elle est titulaire de la chaire de recherche sur la santé des gens du Nord et des Autochtones à l'Institut de recherche Horizon Santé Nord, qui est, elle, située à Sudbury. Et donc, on voudrait aussi, par cette nomination-là, évidemment, mettre en évidence un modèle positif, mais aussi encourager la relève pour les chercheurs originaires des Premières Nations, des Inuits également.
Et une femme aussi.
Et une femme, disons-le, surtout en ces temps assez tumultueux.
Et en recherche et en sciences.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc, une excellente nomination et, bon, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour la suite.
Oui, et j'imagine aussi qu'une femme à la tête de cette chaire de recherche peut créer un climat de confiance avec les gens, les Autochtones, bien sûr.
D'ailleurs, M. Baudet disait qu'un autre des bénéfices de la nomination de Mme Bourassa, c'est de renforcer les liens entre les instituts de recherche et les communautés autochtones, qui sont évidemment les premières bénéficiaires de ce genre de recherche-là.
Oui. Maintenant, une mise en garde de Santé Canada. Oui, en ce qui a trait à des antibiotiques.
Oui, donc une famille d'antibiotiques qu'on appelle les fluoroquinolones. Désolé si je massacre le langage scientifique. Eh bien, ce sont des antibiotiques qui sont transmis par voie orale ou par injection pour traiter notamment des infections urinaires et respiratoires. Santé Canada émet un avertissement. Donc, on les associe à une gamme d'effets secondaires persistants et même parfois invalidants selon les termes utilisés par Santé Canada. Et donc, plusieurs médicaments sont ciblés, dont le ciprofloxacine, le moxifloxacine, le levofloxacine, le norfloxacine et l'ofloxacine. Mon Dieu, c'est un exercice de diction, cette liste. Et donc, si jamais vous prenez ce type de médicament-là, si vous connaissez des gens, eh bien, c'est à surveiller.
On pourra en parler à notre pharmacien tout à l'heure, Martin.
Pourquoi pas?
Et maintenant, en terminant, santé mentale des travailleurs de la santé, en ce 25 janvier, journée de belles causes pour la cause, c'était approprié de parler de ça.
Journée assez à propos. Donc, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux qui sonne l'alarme au sujet de la santé mentale de ses membres. Le syndicat signale que 60 % des membres se disent aux prises avec un indice de détresse psychologique élevé ou très élevé. Évidemment, on sait, le personnel de santé est extrêmement sollicité. Ouais. Et donc, c'est un peu une conséquence, évidemment. On pourrait parler pendant très longtemps des causes de cette hyper-sollicitation.
Entre autres, la violence en milieu de travail, on n'y pense pas nécessairement, mais ils sont soumis, bien sûr, à énormément de pression, de stress, mais aussi des actes de violence.
Oui, et ça entraîne, selon le syndicat, ça contribue à hausser le risque de dépression, de situations d'anxiété. Donc, évidemment, des situations qui peuvent devenir extrêmement graves pour les membres du personnel.
Et on suivra, bien sûr, au cours de cette journée, comme je le disais, en ce 25 janvier, belle cause pour la cause. J'imagine qu'au cours des prochains jours, on pourra voir tous les bénéfices de cette journée.
Il faut en parler plus qu'une journée par année.
Bien sûr. Martin Fogg, merci beaucoup.
Bye-bye.
On apprenait un peu plus tôt cet été sa nomination à titre de commissaire à l'enfance. Tommy Kulchik, bonjour.
Bonjour.
Nouveau commissaire à l'enfance de Montréal, nouvellement en poste depuis septembre. Vous êtes là pour nous parler, bien sûr, de votre nouveau rôle, mais aussi de cette politique de l'enfant de la Ville de Montréal qui s'appelle « Naître, grandir, s'épanouir à Montréal, de l'enfance à l'adolescence ». En quoi ça consiste, cette nouvelle politique, Tommy Kulchik?
En adoptant sa politique, la Ville annonce sa détermination à renforcer son action et son soutien afin que tous les enfants de 0 à 17 ans puissent grandir et s'épanouir à leur plein potentiel. Puis surtout que chacun puisse avoir accès à l'opportunité de réaliser, de réussir ce qu'il entreprend. Ce qui a été mis en place, c'est l'identification de 9 quartiers les plus défavorisés, l'inventaire de ce qui se fait, l'inventaire des manques. Je vais parler plus tard un peu, évidemment, des actes d'intervention. Mais principalement, d'aller chercher des partenaires qui vont réaliser des actions pour combler les vides, des partenaires qui seront un peu des porteurs de dossiers, des partenaires qui vont devoir travailler avec le milieu pour bien identifier les besoins et les joueurs potentiels et évidemment de réaliser des actions qui vont améliorer la qualité de vie de ces enfants-là à tous les jours.
Tommy Kulchik, vous avez travaillé auprès des jeunes pendant plus de 30 ans, à peu près 35 ans, notamment auprès de Jeunesse au Soleil. Est-ce que vous aviez identifié ce manque-là?
Écoutez, c'est... souvent, moi, je dis toujours, malheureusement, il y a trop d'enfants qui n'ont pas l'opportunité de saisir les opportunités qui sont alentour d'eux. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le transport, ils n'ont pas d'accompagnement. Alors, il faut au moins donner la chance à l'enfant de découvrir. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, j'étais timide. On m'avait invité au centre de loisirs. Ça m'a pris 3 ans. J'avais de la difficulté à aller. Je me disais, oui, je vais. Et quand je suis allé 3 ans plus tard, j'avais découvert que j'étais talentueux dans certains sports, alors ma timidité est devenue changée terriblement parce que j'arrivais là-bas, on voulait m'avoir dans son équipe, j'ai découvert mes aptitudes pour certains sports, ça m'a donné confiance en moi, etc. Dans notre histoire, il y a toujours eu une rencontre qui fait en sorte que c'est l'étincelle qui fait en sorte que ça change notre vie. La découverte de la culture, des arts, de la musique, du sport, de la lecture.
Des technologies.
Les technologies. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, mais il faut que les enfants puissent avoir accès à cette opportunité-là. Et c'est à nous de faire en sorte là, de leur donner des outils pour atteindre ces opportunités.
Donc, cette politique, on le comprend, va être déployée dans 9 quartiers, Côte-des-Neiges, entre autres, Hochelaga, Maisonneuve, Verdun, Saint-Michel et plein d'autres quartiers. Est-ce que les premières mesures ont été mises en place?
Écoutez, je me trouve dans une situation inconfortable. Je peux parler de la politique, je peux parler de mais pas du plan d'action. Il sera présenté prochainement. Alors, prochainement, le plan d'action va être présenté. On va bien identifier les actions qui vont être réalisées, les partenaires qui vont être réalisés. Ça se fera très prochainement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, il y a quand même des enjeux qui ont été identifiés. Montréal présente des traits assez distinctifs par rapport au reste du Québec. Une présence considérable de défavorisation. Il y a près de 30% des jeunes de moins de 18 ans qui vivent dans des ménages à faible revenu. Il y a un bassin important d'élèves issus de l'immigration. C'est près de 62%. Dans certains quartiers, on parle de près de 75% de la population scolaire. Le taux de décrochage scolaire, on en parle depuis des années. Oui. Alors, en 2013, je pense que c'est la dernière information qui existe, je pense que c'était près de 20,8 des jeunes. Mais si on regarde à l'ensemble du Québec, c'est environ 18%. Il faut prendre en considération la dynamique particulière des quartiers. La politique, ça doit être de pouvoir s'adapter à la réalité des différents quartiers, aux problématiques des différents quartiers. Et il y a aussi le nombre significatif de familles isolées qui ne profitent pas des ressources. Donc, d'essayer d'amener les gens à participer à des activités, mais il faut aller vers les jeunes aussi.
Ouais.
Et non seulement que ça, il faut, à priorité, être à l'écoute des jeunes. Il faut écouter le jeune, savoir comment ils perçoivent la ville, comment ils perçoivent dans quelle ville ils veulent vivre. Alors, il y a des actions qui vont être réalisées dès la première année par rapport à aller recueillir cette information-là auprès des jeunes, parce que la politique de l'enfant, c'est pour l'enfant.
Oui. Et vous allez aussi viser de grands thèmes, entre autres la persévérance scolaire. On en a parlé avec les préoccupations en ce qui a trait au décrochage scolaire, mais il y a aussi d'autres grands thèmes que vous allez viser à travers la politique.
Tout à fait. on a identifié, la politique a été conçue en identifiant là où on doit intensifier nos actions. Alors, évidemment, premièrement, la sécurité, là, je parle des actes d'intervention, la sécurité et l'accessibilité des environnements urbains. Alors, offrir aux enfants un environnement urbain propice aux jeux, puis la découverte, qui est conçu et aménagé de manière sécuritaire, mais aussi qui est attrayante. Et au niveau, faut jamais oublier l'accessibilité universelle. On parle, c'est évident, il y a une annonce qui a été faite depuis, je peux vous en parler parce que c'est annoncé, au niveau de la saine alimentation et de la sécurité alimentaire. Alors, le club des déjeuners est identifié lors de la première année, doit s'implanter dans 50 nouvelles écoles dans les deux prochaines années. J'ai pas besoin de vous dire l'importance d'un jeune qui arrive à l'école d'avoir l'énergie nécessaire pour mieux écouter, pour mieux réussir. La persévérance scolaire et la réussite éducative, évidemment. Il s'agit d'intensifier les... Dans tout ce qu'on va faire, c'est qu'on évalue ce qui manquait. On va trouver le partenaire qui peut étendre déjà ce qu'il fait. Donc, on va pas réinventer la roue. Quand il y a un partenaire qui œuvre déjà, parce que le succès de la politique de l'enfant, c'est avant tout la continuité de ce qui se fait déjà. Il se fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses, de trouver le bon partenaire pour venir étendre ou intensifier ce qu'il fait dans des quartiers où, évidemment, ils sont moins présents.
Oui.
L'accès à la culture, au sport, au loisir, je l'ai dit tantôt, il faut s'assurer, et on a des actions qui sont très ciblées pour s'assurer que plus de jeunes vont avoir accès à la culture, plus de jeunes vont pouvoir se transporter vers les activités d'accès à la culture. Alors, on est en train de travailler sur ça, c'est presque tout ficelé, mais c'est très important de dire aux jeunes, oui, on le sait, et comme je disais tantôt, d'avoir accès, de découvrir ce qu'ils aiment ou non. Alors, il faut les accompagner dans ce processus-là. Puis évidemment, au niveau de la famille, d'outiller les familles davantage. Mm-hmm. Il y a beaucoup de programmes qui se font, mais lorsqu'on parle d'enfants, on parle de parents aussi. Et il y a beaucoup pour souligner, pour favoriser la mobilisation des acteurs, des principaux lieux d'appartenance, puis d'ancrage des enfants, mais aussi leur montrer l'importance de leur contribution.
À notre société, à notre ville, à notre société.
Exactement. Et il y a évidemment des actions qui sont très bien ciblées pour venir combler ça. Comme je vous dis, j'aimerais vous en parler plus d'une façon plus précise, mais ça va être annoncé en début février. On a très hâte parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont être réalisées.
Bien sûr, il y a différents partenaires qui vont s'impliquer dans l'amélioration de ces différents services pour les enfants. On a parlé du club des petits déjeuners.
Il y a deux groupes qui ont été annoncés. Il y a le club des petits déjeuners et il y a Jeunesse au soleil qui, eux, vont aller dans chaque école des quartiers défavorisés et faire en sorte de venir combler des besoins de base. Donc, on travaille avec les écoles vont leur fournir l'information, à savoir il y a des jeunes qui n'ont pas d'assez d'effets scolaires. Il y a beaucoup de choses qui se font en début d'année pour la collecte de matériel scolaire, mais deux mois, trois mois plus tard, souvent, il y a des manques. Alors, Jeunesse Soleil sera là, non seulement pour les effets scolaires, des vêtements, les lunettes, des médicaments, pour s'assurer que l'enfant a tous les outils nécessaires. Il va avoir tous les outils nécessaires pour bien réussir à l'école.
Donc, vous retournez à vos anciens amours, Tommy Kouchik.
Écoutez, c'est un partenaire qui avait identifié avant mon arrivée. On va préciser ça. Alors, le maire avait déjà identifié Jeunesse au soleil dès le départ, lors du lancement de la politique, puis je n'avais pas été nommé encore commissaire à l'enfance.
En terminant, comment relier ces organismes et ces partenaires aux familles? Parce que, bien sûr, ce sont les familles montréalaises qui sont au cœur de cette nouvelle politique. Ils doivent être impliqués et au courant aussi que l'on fait ça pour eux.
Bien, écoutez, on va travailler avec tous les partenaires du milieu. Comme j'ai dit tantôt, premièrement, les partenaires qui sont identifiés vont travailler avec le milieu. Je vais vous donner un exemple. On va pas remplacer ce qui se fait. Si on prend un exemple, le club des petits déjeuners, ils ont déjà commencé à identifier les écoles qui veulent participer. Ils arrivent dans une école, il y a déjà quelque chose qui se fait au niveau de l'alimentation. Ils ne vont pas remplacer. Ils vont venir les supporter. Ils vont venir, par exemple, ils vont leur donner accès à leur équipement, accès à leurs fournisseurs. Ils vont venir juste compléter, renforcer ce qui se fait. Et ils vont pas remplacer parce qu'il y a déjà un groupe qui est en place. On doit travailler avec le milieu, les commissions scolaires sont impliqués. Il y aura un responsable administratif et politique dans chaque quartier. Par exemple, on va mettre une action en place où on va devoir identifier tous les 15 jours l'été. Mm-hmm. On va devoir, mm-hmm. Et à ce moment-là, le responsable administratif, le rôle du commissaire aussi, c'est pour que ce soit plus durable. Quand le maire a décidé de nommer un commissaire, ben c'était une personne qui était de l'administration. Il y a en plus un élu qui est nommé, Mme Erika Duchesne, dans ce cas-là. Mais étant donné que la politique, c'est pour les 5 prochaines années, renouvelable pour 5 autres, mais on est à l'abri des aléas des élections. Alors, c'est quelque chose qui continue. Puis en même temps, mon rôle aussi, c'est de développer le réflexe enfant, tant à l'interne qu'à l'externe. On doit, à chaque fois que nous allons prendre une décision à compter de maintenant, de se poser la question, est-ce qu'on remet l'enfant au cœur des décisions? Oui. Et c'est ce qui va nous guider là, pour faire de bons choix et faire en sorte que les enfants vont avoir un bien-être là, qui sera amélioré dans les prochaines années.
On peut consulter cette politique à ville.montréal.qc.ca/diversité. Tommy Kulchik, nouveau commissaire à l'enfance de Montréal, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Selon le CRTC, en 2016, plus de 90% des Canadiens ont consulté Internet pour des renseignements médicaux. Vous l'aurez compris, pour le meilleur et pour le pire. Et pour tenter de contrer le pire, Alexandre Chagnon, pharmacien, a mis en place une plateforme web. Question pour un pharmacien afin de trouver du contenu un petit peu plus solide en matière de santé. On le joint à l'instant, Alexandre Chagnon. Bonjour.
Bonjour.
Question pour un pharmacien.com, c'est votre idée. C'est venu de quel constat, Alexandre?
En fait, l'idée m'est venue, en fait, l'intérêt que je porte pour le phénomène de la consultation d'Internet par les patients m'est arrivé en fin de parcours universitaire, là, pendant un stage. Une jeune patiente se présente en pharmacie et demande de parler au pharmacien. En cours de conseil, le pharmacien, on se rend compte que la patiente est allée voir sur Internet quelques jours auparavant et avait trouvé l'information que lorsqu'elle consomme de l'alcool, elle ne doit pas allaiter pendant 3 jours. Elle se présente en pharmacie. Oui, vraiment. Donc, un peu au dépourvu, comprend pas trop ce qui se passe, n'est plus capable d'allaiter son bébé, un bébé naissant là, de quelques semaines. Et donc, le pharmacien fait des pieds et des mains cette journée-là, appelle un médecin, appelle une infirmière pour structurer de l'aide pour la patiente. Et malheureusement, quelques jours plus tard, on doit en venir à la conclusion que l'allaitement pour elle, c'est terminé. Donc, c'est un petit peu... c'est une triste histoire. Et en fait, une histoire aussi qui, pour moi, était assez frustrante parce qu'on s'entend que j'étais en fin de cursus universitaire. Ça faisait 4 ans que j'étais à l'université. On me formait pour intervenir dans une situation comme ça. Et là, on est intervenu un peu trop tard. Donc, je suis arrivé chez moi cette journée-là. J'ai commencé à lire sur le sujet pour me rendre compte exactement de la statistique que vous avez dit en début d'entrevue. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement répandu et tout le monde est conscient de ce phénomène-là, que ce soit l'Ordre des pharmaciens, le Collège des médecins, tout pharmacien, tout professionnel de la santé est est en mesure de vous donner une petite histoire, là, une histoire comique ou une histoire qui l'est peut-être un petit peu moins, de patients ayant apporté une information trouvée sur Internet. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre les choses en main, et parce qu'il n'y avait rien qui se faisait au niveau des professionnels de la santé sur Internet à ce moment-là, de créer une page, là, d'abord qui est une page Facebook, et de voir si les patients allaient l'utiliser, ce qui était le cas, là.
Oui. Maintenant, question pour un pharmacien. C'est une plateforme web, un site web. Les internautes peuvent y aller pour poser différentes questions. Il y a un pharmacien qui répond en l'intérieur de 24 heures. C'est une façon aussi de créer cette proximité entre le pharmacien et le grand public. Quelles sont les questions peut-être un petit peu plus récurrentes qui reviennent sur votre plateforme, Alexandre Chagnon?
En fait, les questions sont vraiment de tout ordre. On répond à des questions vraiment de tout sujet. Ce qu'on se rend compte, c'est que la santé de la mère et du jeune enfant, c'est des questions qui sont récurrentes parce que les jeunes mères cherchent beaucoup sur Internet. Des questions en oncologie aussi, parce que les patients qui sont en traitement de cancer souvent sont à la recherche d'informations, veulent guérir. Et de façon inévitable, Internet étant ce qu'il est, on est en mesure de savoir beaucoup de questions un peu gênante, là. Donc, la première question qu'on avait reçue à l'époque sur la page Facebook, c'était une jeune dame qui voulait savoir si, effectivement, il y avait un produit qui existait pour augmenter la taille des seins. Donc, c'était une question, en fait, qui était super pertinente parce qu'il y avait un produit sur Internet qui se vantait de faire cet effet-là. Donc, c'est un peu les questions qu'on reçoit. On reçoit de tout ordre, et environ une à deux questions à tous les jours est reçue sur le site en ce moment.
Il y a 70 pharmaciens qui collaborent avec vous sur ce site de façon bénévole pour répondre aux questions du grand public, pour tenter de contrer la désinformation. Alexandre Chagnon, est-ce que les questions restent confidentielles? Comment ça fonctionne sur le site web?
En fait, c'est très simple. On parlait de proximité tout à l'heure. C'est exactement ce que ça fait. Le site envoie un pharmacien près du lieu de résidence du patient la question. Et il y a un échange là, qui est fait un peu comme la technologie SMS, donc les messages textes. Il y a des envois qui sont faits de part et d'autre entre le patient et le pharmacien. Et une fois l'échange terminé, la discussion, si elle ne comporte pas d'éléments qui peuvent porter atteinte à la confidentialité du patient, la conversation, elle est mise à la disposition du public là, sur Internet pour que d'autres patients aux prises avec les mêmes problèmes là, puissent recevoir là, l'information. C'est ce qui est bien avec Internet.
Oui. Écoutez, on trouve que c'est une initiative formidable ici, Alexandre Chagnon. 70 pharmaciens déjà qui collaborent avec vous. Est-ce que vous tentez de faire un appel aux pharmaciens pour qu'ils joignent questionspourunpharmacien.com?
Bien sûr. En fait, l'initiative, initialement, c'était que moi qui répondais à toutes les questions. Tranquillement, pas vite, j'ai des collègues que je ne connaissais pas d'un peu partout au Québec qui ont trouvé une initiative comme vous très intéressante d'aider le public. Donc, tranquillement, pas vite, le chiffre a grossi. Au moment où on se parle aujourd'hui, on est 100 pharmaciens, donc ça va quand même bien, là, la progression, mais c'est certain là, qu'on prendrait d'autres collègues. Là, dès aujourd'hui, si on était capable d'être 250, mais peut-être qu'on pourrait aider encore plus de patients parce que des entrevues comme celle que je suis en train de faire en ce moment, c'est la première fois que j'en réalise une, justement pour éviter de sortir publiquement et de faire en sorte que l'initiative soit trop populaire d'un coup, que les 100 pharmaciens reçoivent 10 questions la même journée, ce qui serait assez malheureux parce que les pharmaciens, c'est pas ça qu'ils veulent, en fait. C'est bénévole, effectivement.
Rapidement, il nous reste peu de temps, Alexandre Chagnon, avec le pharmacien qui a pris la place aussi publique dans les dernières années et maintenant votre initiative. Avez-vous l'impression que les pharmaciens, vos collègues, ont besoin de prendre cette place-là auprès de la population québécoise?
Je crois que oui. En fait, notre position, elle est enviable, je crois, au niveau de la population parce qu'on est les professionnels de la santé qui, encore aujourd'hui, sont les plus accessibles. On est très appréciés de la population aussi. Je crois que le seul...
Et ça doit se poursuivre.
Oui, exactement. Et le seul endroit où on n'était pas encore impliqué, ça se trouve être sur Internet.
Merci, Alexandre Chagnon, pour un questionspourunpharmacien.com. Ça a été un plaisir de vous parler. Toujours Marianne Paquette avec vous pour cette deuxième partie de C'est bon pour la santé. Tout à l'heure, je parlerai avec la docteure Anna Inès Ansaldo, qui est chercheure au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. On parle de bilinguisme et vieillissement, de tous les effets bénéfiques de parler plusieurs langues pour le cerveau. Et à l'instant, je joins Daphné Dagenais-Paquette. Elle est coordonnatrice du secteur jeunesse chez Viomax. Bonjour, Daphné.
Bonjour.
On connaît bien ici, au Canal M, Viomax, qui est un centre de conditionnement physique pour les personnes en situation de handicap. On connaît un petit peu moins le petit Viomax. Est-ce que c'est une initiative qui est relativement neuve, Daphné?
En fait, oui, le petit Viomax est un nouveau programme qu'on a débuté à l'automne 2016. Oui, en fait, c'est nouveau.
Et ça venait de quel besoin?
En fait, on avait remarqué chez nos jeunes là que on a ils commençaient à avoir de la difficulté à trouver des activités pour bien sûr bouger tout en s'amusant là. Dans le fond, nous on a décidé de créer le petit Viomax là, justement pour leur permettre de s'amuser, de découvrir des sports adaptés aussi dès leur plus jeune âge là, pour pouvoir leur inculquer des saines habitudes de vie.
Daphné, lorsque vous parlez de vos jeunes, qui sont-ils, oui, ces jeunes-là?
Nos jeunes, en fait, c'est tous des jeunes qui ont des limitations, que ce soit physiques ou bien neurologiques, et ils ont entre 2 et 21 ans.
Ah oui, quand même assez vaste comme besoin.
Oui, effectivement.
Parce qu'un enfant de 2 ans et demi n'a peut-être pas les mêmes intérêts, les mêmes aptitudes aussi qu'un jeune de 22 ans.
Effectivement. Donc, c'est pour ça que selon le nombre d'inscriptions et selon l'âge de nos participants, là, on se voit créer deux groupes, là, en fait, des plus jeunes et des plus vieux. Là.
Mm-hmm. Et ces jeunes-là, ils sont référés de quelle façon chez vous, Daphné?
Présentement, en fait, c'est des inscriptions comme ça. Sinon, ils sont beaucoup aussi, on fait beaucoup de publicité au niveau des centres de réadaptation. Mm-hmm. Donc, des fois, ils nous sont référés par les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les travailleurs sociaux aussi. On fait quand même beaucoup de promotion là, auprès des intervenants qui peuvent avoir un lien avec ces jeunes-là. Donc, c'est souvent par eux, dans le fond, que l'inscription passe, mais c'est les parents qui procèdent à l'inscription.
Oui. Et pour s'inscrire au petit Viomax, est-ce qu'il faut correspondre ou remplir certains critères?
Bien, en fait, on a deux critères principaux. C'est d'avoir une limitation physique et ou neurologique et d'être âgé entre 2 et 21 ans.
Ah, OK. Alors, c'est vraiment tout simple.
Oui. Effectivement.
Et quel genre d'activité vous proposez à ces jeunes-là, Daphné?
Nos activités, en fait, du petit Viomax à l'année, donc durant l'année scolaire, c'est les samedis, donc entre 10h et 16h. Donc, à travers cette journée-là, on fait des sports adaptés, de l'escrime, du karaté, du basketball, du soccer, n'importe quel sport qui existe déjà. Et nous, on l'adapte. Un exemple, nous, à l'automne, on a adapté le kinball. Donc, au lieu de lancer le ballon dans les airs, nous, on roulait le ballon. Donc, nos jeunes n'avaient pas la capacité de pouvoir lancer le ballon. Donc, nous, on a décidé qu'on changeait les règles. Mais ça a super bien fonctionné. On a toujours, c'est ça, notre partie de sport adapté. Et ensuite, dans le fond, on a aussi notre partie culturelle. Donc, soit qu'on fait de la danse, un bricolage et tout ça. Et on a aussi notre partie saines habitudes. Donc, on fait de la cuisine. On a une petite période, là, que ce soit une grande recette, une petite recette. Par exemple, samedi dernier, on a fait des petites boules d'énergie. Une petite recette bien simple là, pour permettre à nos jeunes d'avoir de l'énergie pour faire toutes nos activités.
Oui.
Et on a aussi une période de baignade là, toutes les après-midi.
C'est une approche qui est assez globale.
Effectivement, on va chercher autant le jeu, autant le développement des muscles et tout ça.
L'alimentation saine aussi, les saines habitudes de vie. Lorsqu'un enfant se présente avec une déficience visuelle ou une déficience intellectuelle, on parle de deux types d'enfants qui ont des développements bien différents, comment on peut adapter un jeu comme le Kinball pour qu'il convienne et amuse ces deux types d'enfants-là?
Oui, ben c'est sûr que nous, on s'adapte vraiment à toutes les limitations. Donc, c'est le devoir de nos merveilleux animateurs de faire ça, et ils le font super bien. Donc, en fait, pour un jeune qui aurait une déficience visuelle, soit qu'on met des petits grelots sur le ballon, ça peut être aussi de juste l'accompagner, de lui dire « OK, attention, le ballon s'en vient », de lui dire la distance aussi entre lui et le ballon, ça peut aussi l'aider. Et un jeune qui a une déficience intellectuelle, en fait, nous, c'est sûr qu'au petit Viomax, on a des jeunes qui ont une déficience intellectuelle. On essaie de prendre les jeunes qui ont une déficience intellectuelle de légère à moyenne. Avec les couleurs du ballon, l'animation que nos merveilleux animateurs font, ça fonctionne très bien.
Ouais. Et lorsque vous dites que vous divisez le groupe ou les inscriptions plutôt en deux parties, ce sont les plus jeunes et les plus vieux, j'imagine?
Oui. C'est ça. Présentement, dans le fond, on a uniquement un groupe. Dans le fond, notre groupe, présentement, là, tourne aux alentours de 8 à 12 ans. Donc, c'est quand même des jeunes qui fonctionnent très bien ensemble et tout ça. Là. Donc, présentement, on a uniquement un groupe. Mais selon le nombre d'inscriptions, là, effectivement, nous, on va diviser là, les plus jeunes et les plus vieux.
Mm-hmm. Bien sûr, le programme, on le disait tout à l'heure, est tout neuf depuis l'automne 2016. Seulement, Daphné.
Oui.
Est-ce que vous avez quand même pu observer tous les impacts ou les bénéfices positifs là, pour les jeunes?
Oui, effectivement. Nous, dans le fond, notre but, c'était vraiment de pouvoir faire découvrir des sports aux jeunes et tout ça. Et dans le fond, on a eu la plus belle preuve. Samedi dernier, on a eu une jeune qui... à la maison, bougeait plus ou moins tout ça. Et là, maintenant, à la maison, elle veut reproduire tous les sports qu'on fait les samedis. On lui a d'ailleurs acheté des gants de boxe à Noël pour qu'elle puisse continuer à la maison et tout ça, parce qu'elle avait vraiment aimé ça. On voit beaucoup, beaucoup de retombées là, chez nos jeunes présentement. Là.
Bien sûr, tout l'impact de la santé physique, on le ressent assez aisément. Mais il y a aussi... tout le contact interpersonnel, social, pour un enfant qui vit avec une déficience, de rencontrer un autre enfant qui vit soit avec la même déficience, le même handicap ou une autre limitation, ça doit être extrêmement enrichissant.
Oui, vraiment. Le fait de vivre en groupe aussi, tout le caractère social de nos activités favorise vraiment beaucoup justement les liens là, entre les jeunes et tout ça. Présentement, les jeunes qu'on a étaient là l'été dernier, sont là à l'automne, ils se connaissent. Donc, non, c'est vraiment... il y a vraiment un esprit de camaraderie qui règne là, à tous les samedis. Là. C'est vraiment le fun.
Parce que l'été, c'est les camps de jour?
Oui, effectivement.
Okay. OK, on pourra se donner l'occasion d'en reparler, bien sûr, Daphné.
Ben oui, ben oui.
Comment les parents réagissent à cette nouvelle initiative?
Les parents, en fait, sont vraiment très, très optimistes, très, très heureux de cette nouvelle-là parce que, dans le fond, dans le passé, on avait aussi des activités qui étaient un petit peu moins axées sur l'activité physique, qui étaient plus axées sur le jeu et tout ça. Maintenant, on axe vraiment beaucoup plus sur le développement, sur l'autonomie des jeunes et tout ça. On veut vraiment les pousser plus loin que leurs limites. Et tout. Donc, je pense que les parents là, sont vraiment très, très heureux de ça. Là.
C'est peut-être un peu plus structuré. C'est comme ça qu'ils le ressentent.
Oui, effectivement.
Ouais. Est-ce que les parents sont les bienvenus dans vos activités?
Nous, en fait, oui, ça a jamais eu lieu, mais oui, effectivement, là, si les parents veulent rester, voir qu'est-ce qu'on fait, ben oui, effectivement, là, on est très ouvert à ça.
Oui. Maintenant, en terminant, j'aimerais que l'on parle un petit peu, qu'on revienne un petit peu sur Viomax, qui est peut-être un petit peu moins, vous, votre champ d'expertise, Daphné. Lorsqu'on parle des enfants un petit peu plus âgés, 18, 19, 20, ben, enfants jeunes, devrais-je dire, là, jeunes adultes même, est-ce qu'ils peuvent bénéficier et des services du petit Viomax et de Viomax?
Oui, bien, c'est sûr. Nous, en fait, c'est sûr que le petit Viomax s'adresse vraiment aux jeunes de 21 ans et moins. Mais par contre, si un jeune adulte qui décide d'aller à la salle de conditionnement physique, s'entraîner sur semaine et venir durant les samedis d'activité, ben oui, il n'y a pas de problème. Puis nous, c'est sûr que plus que l'enfant est âgé, plus qu'on essaie justement de l'accompagner vers la salle de conditionnement physique pour qu'il puisse bien sûr continuer tout le travail qu'on a fait. Là.
Bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'enfant que vous accompagnez à partir de 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, mm-hmm. à qui on sème, oui, bien sûr, les saines habitudes de vie, mais aussi d'apprécier l'activité physique, oui. risque de continuer après 21 ans à aller chez vous, chez Viomax.
Effectivement, puis à Viomax, dans le fond, on n'a pas de limite d'âge. Donc, on peut continuer d'un enfant de 2 ans jusqu'à temps que, jusqu'à ses 100 ans.
Oui, voilà. Au centre de conditionnement physique Viomax, vous recevez quel genre de clientèle, Daphné?
C'est encore une fois une clientèle qui a des limitations fonctionnelles. Donc, que ce soit des séquelles de polio, la paralysie cérébrale, la fibromyalgie, peu importe, là, nous, dans le fond, on offre des services à tout le monde.
Oui, à des adultes qui vivent en situation de handicap. C'est un centre de conditionnement physique, on comprend bien. Oui. Est-ce qu'il y a des activités aussi, un peu à l'instar du petit Viomax?
Oui, bien en fait, on a des activités en piscine, on a des cours en piscine, on a des cours en gymnase aussi. Il y a plusieurs activités à Viomax là, pour tous les goûts.
Donc, est-ce qu'il est encore temps de, et là je reviens au petit Viomax, Daphné, de s'inscrire pour les jeunes, pour les familles?
Oui, effectivement. Dans le fond, nos inscriptions sont toujours en cours pour la session d'hiver et pour la session de printemps aussi, et ainsi que notre merveilleuse semaine de relâche.
Ah, bien sûr, il faut penser à préparer tout ça.
Effectivement.
Et on pourra se donner l'occasion de se reparler pour votre camp de jour, votre camp d'été aussi.
Ben oui.
Daphné Paquette, vous êtes coordonnatrice du secteur jeunesse chez Viomax. Et on a parlé aujourd'hui du petit Viomax et de Viomax. On peut aller sur votre site viomax.ca pour en savoir davantage?
Effectivement.
Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Ben merci, bye-bye.
Elle parle portugais, italien, espagnol, anglais et français. C'est sûrement pas un hasard aujourd'hui qu'elle nous parle des bienfaits du bilinguisme sur le cerveau. Docteur Ana Inés Ansaldo, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette, bonjour.
Vous êtes également, et ça je pense que c'est important de le préciser, chercheuse au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Est-ce que c'est votre expérience personnelle de différentes langues qui vous a amené cette piste de chercher un petit peu les effets du bilinguisme sur le cerveau?
C'est sûr que mon expérience personnelle a joué. En fait, mon domaine de recherche est celui de la neuroplasticité induite par l'expérience, donc de la façon dont le cerveau est formaté ou câblé selon l'expérience vécue. Puis oui, je m'intéresse au langage, pas seulement au bilinguisme, mais aussi aux effets des AVC sur le langage, par exemple. Donc, certainement, peut-être même inconsciemment, il y a eu un peu de ça, un peu de mon histoire personnelle qui a joué.
Est-ce que vos objectifs de départ, docteur Ansaldo, était de déterminer les impacts positifs du bilinguisme sur le vieillissement cognitif?
Oui, en fait, c'était exactement ça. Certaines recherches avaient montré que les bilingues étaient meilleurs que les unilingues dans des tâches qui demandent de gérer l'interférence entre deux informations, qui faisaient qu'ils avaient moins d'erreurs dans les tâches, qu'ils avaient des temps de réponse plus courts, mais c'était pas vraiment concluant. Les résultats étaient un peu controversés, donc on a voulu regarder un peu ce qui s'est passé dans le cerveau pour essayer de mieux comprendre.
Ouais. Et pour ça, vous avez fait une recherche sur des groupes de personnes. Vous avez divisé deux groupes de personnes, des unilingues et des personnes bilingues. À quoi ressemblait ce bassin de personnes?
Ben, c'était un bassin de personnes âgées parce que je m'intéresse surtout au cerveau vieillissant en général, puis aux impacts du bilinguisme dans le vieillissement cognitif. Donc c'était des personnes âgées qui avaient appris la langue seconde, qui était généralement l'anglais. Mm-hmm. Pas nécessairement très tôt dans leur vie, en fait. Il y avait des personnes qui avaient appris la langue autour de 15 ans, 16 ans, puis même plus tard, dans la trentaine. Mm-hmm. C'était des gens aussi qui étaient quand même assez actifs dans leur vie quotidienne. Puis qui était scolarisé, quoique bon, on sait qu'aujourd'hui que c'est pas la scolarité qui est le facteur prépondérant, parce que les effets du bilinguisme ont été prouvés même chez des personnes analphabètes.
Donc, ah oui. Alors ça, c'était pour le groupe de personnes bilingues. Mm-hmm. Chez les personnes unilingues, c'était aussi des personnes qui avaient une certaine éducation et
Absolument.
Qui étaient actifs. OK.
Oui, c'était des personnes qui étaient appariées par tous les facteurs dont on pense, les bienfaits pour le vieillissement cognitif, sauf pour l'effet du bilinguisme. Mm-hmm. Donc, c'était la seule différence.
Et qu'est-ce que vous avez pu observer à travers cette recherche?
Ben, en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que malgré le fait que les bilingues et les unilingues ont été aussi bons les uns que les autres à accomplir la tâche, c'est-à-dire il n'y avait pas de différence au niveau des temps de réponse et des taux d'erreur, leurs cerveaux respectifs consommaient des ressources différemment pour accomplir cette tâche-là. En fait, les différences étaient au niveau du cerveau, en particulier, disons, les personnes âgées unilingues recrutaient un réseau qui était assez vaste, qui mettait en jeu différentes régions du cerveau, des régions qui sont bonnes pour la motricité, des régions visuelles, des régions des fonctions exécutives. En fait, ils constituaient un réseau de toutes pièces, donc ils consommaient ainsi beaucoup de ressources, tandis que les personnes âgées bilingues ont recruté un petit réseau qui est très spécifique à la tâche à compléter. En fait, ils ont recruté deux aires bien spécifiques qui étaient interconnectées très fortement entre elles. Et ce sont des aires spécialisées dans le traitement de la couleur qui était en fait l'information cible dans la tâche qu'on avait présentée.
Ouais. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que le cerveau bilingue est un petit peu plus économe.
Oui, absolument. Il est un peu plus économe. Il se focalise sur l'essentiel de la tâche. Et on pense en fait que le fait de parler, parce que c'est pas juste de connaître les langues, c'est le fait de les utiliser au quotidien. Et ça, pour ça, les bilingues de notre étude étaient de ce type-là. Le fait d'avoir à manipuler deux langues au quotidien, puis bon, avoir activé l'une, inhibé l'autre et changé des cibles selon ce qu'on fait que notre cerveau devient un expert, en fait, dans la gestion des informations concurrentes.
Oui. Le fait que ce cerveau, le cerveau bilingue, de la personne bilingue, devrais-je dire, est plus économe, qu'il sollicite moins de régions dans notre cerveau, est-ce que c'est ça qui fait qu'il vieillit mieux?
Mais disons que on n'a pas une réponse concluante, mais on pense, en fait, que le bilinguisme a cette capacité de formater le cerveau d'une manière différente, notamment en ce qui concerne la gestion des multiples informations. Mm-hmm. Puis, quand on vieillit, en fait, le vieillissement normal, touche à cette habileté-là, parce que, bon, il y a des régions du cerveau qui vieillissent, qui sont plus sensibles au vieillissement que d'autres.
Oui.
Ce sont les régions qui gèrent le contrôle de l'interférence. Le fait d'avoir entraîné cette capacité davantage, puis d'avoir un cerveau qui la gère avec moins de ressources, oui, c'est un avantage, effectivement.
Est-ce qu'on a pu prouver quelque part que les personnes unilingues souffraient davantage de démence ou de maladies neurogénératives plus tôt dans leur vie ou davantage?
Bien, en fait, les personnes bilingues et unilingues ne sont pas, disons, à des risques différents d'avoir la maladie.
Okay.
C'est-à-dire, la maladie dépend d'autres choses. Mm-hmm. Par contre, ce qui est différent, c'est la capacité à réagir à cette maladie-là. En fait, les personnes bilingues ne sont pas nécessairement moins sujettes, mais le bilinguisme leur confère une sorte de réserve cognitive et neurale qui leur permet de mieux combattre les effets de la maladie. C'est pour ça, en fait, qu'on pense que c'est à cause de ça que les personnes bilingues montrent les signes de démence, par exemple, plus tardivement que les unilingues, entre 4 et 5 ans plus tard. Mm-hmm. C'est beaucoup.
C'est tellement intéressant. Donc, c'est une forme de protection. Dans le concret, peut-être que vous ne serez pas en mesure de nommer plein de choses, mais dans le concret, comment ça peut aider au quotidien une personne bilingue là, dans sa vie, dans ses activités quotidiennes?
Mais c'est sûr que c'est disons, ce sont les pistes de recherche qu'on explore en ce moment. Mm-hmm. Et, disons, on a des hypothèses bien précises sur comment le fait de parler deux langues peut avoir des effets sur la façon dont les personnes âgées gèrent les activités de la vie au quotidien, parce qu'en fait, la compétition entre des informations, c'est quelque chose qui est présent dans notre quotidien.
Ouais.
Et puis, encore une fois, disons, quand on vieillit, c'est quelque chose qui devient plus difficile. Mais c'est difficile de conclure à ces stades-ci. En fait, je pourrais vous parler plus en détail de ça dans quelques temps.
Oui, parce que vous continuez à travailler là-dessus, sur les bienfaits du bilinguisme sur le cerveau et davantage dans le quotidien, ce que ça peut entraîner. En terminant, j'ai quand même envie de vous poser cette question, Dr. Ansaldo, à savoir, une personne qui nous écoute en ce moment, qui a 55 ans, 70 ans, qui dit, bon, moi, je veux apprendre une autre langue, que ce soit l'anglais ou l'espagnol ou l'italien, est-ce que ça aura des effets bénéfiques sur mon cerveau? Est-ce qu'on est à même de le dire?
Disons qu'on sait, il y a des études qui ont déjà montré que quand on apprend une langue seconde, même tard dans la vie, c'est là en train des changements, même au niveau de la matière grise dans certaines régions du cerveau. Du point de vue des effets au niveau des changements du comportement, c'est à voir. Mais je encouragerais fortement les personnes âgées à apprendre une langue seconde parce que la plasticité du cerveau est quelque chose qui persiste tout au long de la vie, y compris dans le vieillissement, y compris lorsqu'il y a des maladies associées au vieillissement. Les gens pensent que quand on vieillit et même quand on tombe malade, le cerveau ne fait que perdre, mais ce n'est pas vrai. Le cerveau est une machine à fonctionner puis à se recâbler. Et donc, le fait d'apprendre une langue et de mettre en pratique au défi cette habileté de gérer des informations en compétition, c'est fort probablement une bonne chose à faire si on veut garder notre cerveau actif.
Oui, un peu comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il est souple et fort et en forme. Là.
Absolument. Disons que le cerveau demande d'être stimulé. Le pire qu'on peut faire, c'est de rester dans ses vieilles pantoufles puis de faire toujours la même chose. La question est de le faire d'une manière tel que cela n'ajoutera pas un énorme stress, parce que le stress excessif, c'est pas un bon ami du cerveau.
Ouais.
Mais si on le fait d'une manière raisonnable, disons, c'est sûr que ça entraîne plein de bénéfices, sans parler des bénéfices collatéraux qui ont rapport avec la socialisation,
bien
qui
sûr.
Est aussi un facteur très important lors du vieillissement.
Donc, l'apprentissage d'une langue dans le plaisir.
Absolument.
Docteur Anna Inès Ansaldo, vous êtes chercheure au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et professeure à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé des effets bénéfiques du bilinguisme sur le cerveau. Et on se reparle dans peut-être quelques mois, quelques années pour la suite de vos recherches.
Avec grand plaisir. Merci à vous.
Merci. Dernier segment de cette émission de C'est bon pour la santé, c'est le moment de mon coup de cœur où je vous parle d'une découverte ou de quelque chose bon que j'ai apprécié, qui me semble être utile pour votre quotidien. Là, je vous parle d'un bouquin qui traîne dans ma bibliothèque qui aidera peut-être certains d'entre vous bon, dans votre vie personnelle, mais peut-être aussi un proche, à savoir comment aider un enfant qui vit avec un proche, un parent qui a un problème de santé mentale, de maladie mentale. C'est, bien sûr, toujours en lien avec cette journée du 25 janvier, belle cause pour la cause. C'est un sujet un petit peu tabou, la maladie mentale, bon, de moins en moins, bien sûr, mais surtout auprès des enfants, comment on aborde cette question sensible avec eux, comment on peut parler de cette réalité, de son quotidien. On oublie un petit peu l'enfant qui vit dans cette tourmente-là et pourtant qui est extrêmement vulnérable et touché par la réalité. Ce livre-là s'appelle « La maison des intempéries, vivre avec un parent qui a un trouble de personnalité limite », mais pour l'avoir lu, ça pourrait aider aussi d'autres types de problèmes de santé mentale. C'est écrit par une psychologue, Lise Laporte, par un psychiatre, Ronald Fraser, tous deux Québécois. En fait, le livre est édité chez Midi30. Ça s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans. C'est un album qui est illustré, donc très accessible pour eux. On y suit deux jumeaux qui s'appellent David et Marie. Et dans l'exemple d'une journée type pour ces enfants-là qui vivent avec une mère qui est parfois, qui a, disons, des hauts et des bas, donc une journée un peu chaotique, et on s'inspire des fluctuations de la météo pour décrire les états de la maman. Et bien sûr, tout ça est basé sur des études, des informations cliniquement approuvées par les deux spécialistes de la santé. Ça apporte des réponses claires, peut-être aux enfants, ben en fait, surtout aux enfants âgés de 6 à 12 ans, mais surtout aussi aux parents, je pense aux conjoints, aux proches aussi, qui vivent eux-mêmes cette réalité-là. Comment l'aborder avec les enfants, mais aussi comment le comprendre de l'intérieur. Donc, La maison des intempéries chez Midi30, un bon petit livre là, à utiliser si vous vivez ce genre de situation-là. Voici la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié. C'était Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console, Christiane Campagna aux médias sociaux, Martin Forgue à la recherche, Marianne Paquette au micro. Je vous invite bien sûr à entrer en contact avec nous, Twitter, Facebook, et également via notre site vusezvoix.com. On est toujours bien content d'avoir de vos nouvelles. On se redonne, nous, rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.